Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Saint-Louis en Montérégie, entre Saint-Hyacinthe et Sorel. Et je suis à la Brouette Maraîchère avec Émilie Guérard. Salut Émilie.
Allô Marc.
Merci de m'accueillir chez toi. Alors déjà, où est-ce qu'on est?
Alors on est bien à Saint-Louis. Ouais. On est près de la rivière Yamaska. C'est vraiment, comme tu disais, à mi-chemin entre Sorel et Saint-Hyacinthe. Peu de gens connaissent Saint-Louis.
Oui, hein, c'est tout petit.
Oui, c'est tout petit, mais on est environ à une heure de Montréal. On est à 25 minutes de Saint-Hyacinthe.
C'est quoi la brouette maraîchère? Qu'est-ce que tu mets dans ta brouette, dans ta grosse brouette?
D'abord, ça a été une production de paniers biologiques pendant 5 ans. Par la suite, je me suis reconvertie en pépinière parce que la pépinière avait toujours été là depuis le début. C'est-à-dire qu'on avait pris la décision de vendre nos surplus de production. Au final, bien, la pépinière prenait de plus en plus d'espace. Et là, les paniers bio aussi, ça grossissait. Et là, tout devenait un petit peu compliqué. Et à un moment donné, bien, j'ai pris la réflexion de me concentrer sur ce que moi, j'aimais le plus faire, qui était la pépinière. Et aussi, physiquement et mentalement, qu'est-ce que je pouvais tenir. Alors, le nom de la brouette maraîchère, en fait, c'est le concept de panier bio. Mais au final, ça porte bien son nom aussi, ouais, pour la pépinière. Parce que nous, on fait principalement que des plants qui sont comestibles et on est certifié biologique. Alors, ces deux choses, je pense qu'ils vont ensemble.
Juste que la brouette a grossi, finalement?
La brouette a grossi et s'est un petit peu transformée. Ouais. Et on a rajouté beaucoup plus de variétés maintenant, ouais, qu'on avait avec les paniers bio.
Je retourne en arrière, j'aime ça, de trouver le déclic, là où il est arrivé. Parce que toi, tu as étudié, alors attends, je reprends mes notes, tu as étudié en sociologie et psychologie.
Oui.
C'est quoi le rapport?
Ben écoute, il n'y en a pas. Ben il n'y en a pas, il y en a plein en même temps. C'est-à-dire, ouais, que moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont toujours vécu sur une ferme laitière. Fait que l'agriculture, c'était pas complètement inconnu, mais j'avais envie de vivre autre chose. Tu sais, quand on est fin ado, début, ouais, adulte, on veut prendre... voler,
ouais,
nos propres, ouais, ailes, prendre notre indépendance. Et finalement, je me suis dit, ben tiens, moi, je m'en vais dans la grande ville de Montréal faire mes études.
C'est ça, parce que tu étais dans la région de Québec, sur l'île d'Orléans.
Je suis originaire de l'île d'Orléans, ouais, exactement. Oui, je suis originaire de là, fait que c'est très,
très
bucolique, très, ouais, ancestral, très agricole, très terroir. Alors, effectivement, c'est pas trop différent, mais il a fallu que je passe quand même par Montréal, oui, pour faire mes études en sociologie, en psychologie, pour finalement me rendre compte que, aïe, 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 non, c'était trop de bureaux, c'était trop de paperasse, c'était trop à l'intérieur, pour revenir vers l'agriculture. Mm-hmm. Et en fait, la beauté de ça, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des organismes communautaires dus à mon parcours scolaire. Par exemple, on approvisionne des jardins d'organismes qui travaillent en réinsertion sociale, en transformation alimentaire. C'est des cuisines collectives, c'est des gens qui travaillent auprès de la déficience intellectuelle. C'est vraiment très, très varié. Et nous, en fait, une de nos valeurs qui est ancrée depuis les débuts, c'est d'être accessible pour les organismes communautaires. Fait qu'on leur offre des plans, soit que c'est nos surplus, soit que c'est des prix un petit peu plus bas que ce qu'on retrouve, nous, dans la vente des particuliers. Puis ça leur permet à eux de bien fonctionner là, avec des plants de qualité. J'ai combiné les deux. C'est pas trop loin de l'agriculture, ouais, mais en même temps, il fallait que je combine un petit peu mes deux passions. Mm.
Alors là, on est devant deux serres où tu commences ta production. On est en avril, donc c'est vraiment le début. Là. Ça fait quelques semaines que tu as commencé à travailler.
Oui, bien c'est ça. En fait, on a une étagère à semis dans la grange. Fait qu'on commence notre production d'abord sur les néons parce que chauffer les serres pour quelques plateaux, pour moi, c'est trop, trop cher.
C'est pas
nécessaire, c'est pas écologique et toutes ces raisons. Alors, on commence avec une étagère à semis et en mars, là, j'ouvre la première serre. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on transfère les plateaux, on continue à toutes les semaines à semer les graines parce qu'il faut savoir que l'horticulture, c'est un peu comme une vague. Ça commence petit, à un moment donné, il y a un pic et ça redescend fin avril, début mai. Mm-hmm. Et là, on embarque plus dans la distribution des plants. Effectivement, là, on a ouvert les serres en mars. Et la deuxième serre, on l'a ouvert il y a quelques jours, début avril, pour transférer, en fait, tout ce qu'on a de production.
Tout ce qui débordait, finalement?
Ben, oui, c'est ça, tout ce qui débordait, parce qu'en fait, là, on n'a plus de place dans la première serre. Puis aussi, la deuxième serre, c'est ce qu'on appelle une serre tempérée. Alors, elle est un petit peu moins chauffée. Fait que moi, je transfère tout ce qui est résistant au froid, les, mm-hmm, vivaces, les choux, les fleurs, les fines herbes, le thym, tout ce qui résiste vraiment bien au froid, parce que la nuit, on chauffe seulement à 5 degrés dans cette serre-là. Et la première, on chauffe à environ autour de 20 degrés.
Alors, quels sont les défis?
Oh mon Dieu,
des
il y en a
tonnes,
plein.
On peut parler deux heures, j'imagine.
Il y en a plein.
Hein?
Ben, d'abord, tu sais, un défi irréaliste, c'est d'avoir plus que 24 heures dans une journée.
Ouais, non, ça n'arrivera pas.
Parce que non, malheureusement, c'est ça. Mais non, c'est vraiment d'être à jour dans le calendrier de production, parce qu'on peut pas se permettre de manquer une semaine pour une variété, par exemple. Oui. On doit à chaque semaine planter des graines. Moi, ce que j'appelle démarrer des semis. Alors, on plante des graines dans le terreau, puis s'assurer que le taux de germination est bon. Après ça, on s'assure de faire du dépistage. Nous, on est dans la fertilisation biologique, fait que moi, j'ai du compost. J'ai aussi de l'émulsion de poisson ou des algues marines pour fertiliser les plants pour pas qu'il manque d'azote, de phosphore ou de nitrogène. On porte plusieurs chapeaux. Je pense que c'est ça le défi, c'est de se dire, OK, on continue avec la production, mais en même temps, on supervise ce qu'on a déjà, puis on se prépare tranquillement pour la distribution.
Alors, on va rentrer dans la première serre.
Oui, avec plaisir.
Puis, je vais me permettre de te demander, justement, tu disais tantôt, tout est une question de timing, mais on s'entend que même si tu es à l'intérieur et dans une serre chauffée où on vient de rentrer, on le sent vraiment que c'est chauffé, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, forcément. Là, je parle de la météo.
Non, bien, c'est ça. C'est le petit stress aussi par rapport aux végétaux, c'est qu'on travaille avec du vivant.
Ouais.
Fait qu'on n'est jamais sûr que qu'est-ce qu'on plante, ça va germer. On n'est jamais sûr du taux de succès non plus. Puis comme on travaille avec du vivant, ben ça peut amener des maladies fongiques, on peut avoir des insectes, on peut avoir... par exemple, si j'ai une fournaise qui décide de ne plus fonctionner, ben là, ça va descendre sous zéro. Puis là, les plants, ils peuvent pas vivre sous zéro. Alors, je vais avoir beaucoup de pertes. C'est ce petit stress-là aussi qui représente un défi. Mais sinon, c'est sûr que là, la serre, elle est bien remplie.
Ouais.
Vraiment jusqu'au fond. Puis aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. Fait que d'année en année, je pourrais dire que ça varie. Vraiment, c'est jamais pareil. La température... on a les ballons qui partent.
Ouais.
La température est différente, la luminosité est différente, le taux d'humidité est différent. Comme cette année, on a un printemps vraiment hâtif qui est extraordinaire. Mais ça amène aussi des enjeux que les plants, comme il y a plus de luminosité, de chaleur et tout, poussent plus vite. Alors, ce qui fait en sorte que nous, en mai, quand on est rendu à la distribution, bien, soit qu'on va les changer de pot pour s'assurer que les racines ne sont pas trop coincées puis que le plant est encore de qualité, ou soit qu'on va peut-être augmenter la fertilisation d'algues marines pour s'assurer encore là que le terreau ne s'appauvrit pas. Mais ça fait des plants qui sont un petit peu plus gros que ce qu'ils devraient être. Alors, à ce moment-là, on va, l'année prochaine, essayer de décaler d'une semaine. Mais là, on espère qu'on va retrouver les mêmes conditions. Parce que là, sinon, il va y avoir des petits plants. Fait que, tu sais, on joue toujours comme ça.
Ouais, c'est ça, tu t'adaptes. Il y a la théorie puis la pratique.
C'est ça, on s'adapte en fonction de ce qu'on a sur le terrain, effectivement. Puis même au jour le jour, des fois, je me dis, oh non, cette variété-là, je vais la reporter d'une semaine parce que là, elle va pousser trop vite. Et, c'est
faut
sûr
que tu t'adaptes en permanence.
Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que ça fait presque 10 ans que je fais ça. Fait que je commence à être vraiment confiante dans ce que je fais. Puis, tu sais, savoir, là, on a 350 variétés. Chaque variété est différente.
Ben, oui,
c'est beaucoup. Puis on en rajoute à chaque année. Fait que moi, je trouve que ça représente un petit défi aussi. C'est ma petite découverte à chaque année d'essayer de produire des nouvelles choses. Mais n'empêche que chaque variété a ses spécificités en termes de conditions, de culture, de croissance, en termes de besoins d'eau, de besoins de terreau et tout. Et je commence à quand même bien les connaître.
Là, tantôt, tu nous as dit les ballons vont partir, puis on les a attendus. Explique-nous, c'est quoi, justement?
Ah, alors, les ballons...
On peut décrire, c'est un espèce de grand tuyau, finalement, qui fait quoi, un pied de diamètre, plus ou moins, là, et qui va tout le long de la serre.
C'est ça, exactement. Alors, une serre n'est pas étanche. Il faut savoir qu'il y a toujours des pertes de chaleur, il y a toujours des courants d'air qui se passent. Et dans le fond, quand on parle de l'effet de serre, on a vraiment un bel exemple aujourd'hui, c'est que la lumière entre à l'intérieur, touche le sol et se reflète sur les parois de la serre, ce qui fait en sorte que le taux de luminosité à l'intérieur est beaucoup plus élevé qu'à l'extérieur, même si pourtant on a du soleil de part et d'autre. C'est que vraiment les rayons UV vont venir frapper les parois du plastique de serre. Et qui dit rayon UV dit aussi augmentation de la chaleur à l'intérieur. Alors, les ballons qui sont situés en haut permettent en fait à des ventilateurs de prendre de l'air de l'extérieur et de les pousser à l'intérieur. Fait que c'est comme ça qu'on tempère la serre.
Alors, revenons à tes plants. Tu fais des fines herbes, tu fais des légumes, tu fais des plantes médicinales, tellement de choses. Là.
Tellement de choses. On a
350, c'est ça, tu disais?
350 variétés, puis à chaque année, on en rajoute. On a commencé, évidemment, en lien avec les paniers bio, à faire des légumes. C'était que des légumes au début. Et finalement, ben, il y avait de la demande pour des fines herbes. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas, allons-y avec des fines herbes. Puis au final, on a embarqué les fleurs aussi, environ 5 ans dans le catalogue. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec les fleurs, c'est que nous, on veut garder l'objectif que d'avoir des plants qui sont comestibles. Alors, on essaie vraiment d'intégrer des fleurs qu'on peut ajouter dans notre garde-manger, qu'on peut ajouter dans nos salades, dans nos muffins, dans nos gâteaux. On essaie vraiment, en fait, de garder la vocation écologique, c'est-à-dire d'avoir soit des plantes qu'on peut manger, soit des plantes qui sont adaptées pour les abeilles, pour les insectes pollinisateurs, les insectes bénéfiques au jardin, ou soit médicinales qu'on peut transformer en concoction, en crème. Fait que c'est vraiment trois créneaux, là, trois objectifs qui sont vraiment très, très précieux pour nous avec lesquels on travaille.
Parle-moi un peu de ta job à l'année, si j'ose dire, et puis de ton équipe aussi, parce que j'imagine que ça dépend des saisons, évidemment.
Oui, bien c'est ça. En fait, dans l'équipe, là, on est 10 personnes en avril. En bénévolat aussi, nos parents viennent nous aider, puisque nous, on est très générationnels ici. Les parents, mes parents et les parents de mon conjoint adorent venir passer du temps dans la serre.
Ça fait
qu'ils viennent nous aider. Oui, ça tombe bien parce que les papis, en plus, sont bricoleurs. Ah, ils touchent à tout, fait qu'ils réparent toutes nos petites choses. Les mamies viennent la journée nous aider. Après ça, le soir, elles s'occupent plus des enfants. Puis ça libère mon conjoint et moi pour vraiment se concentrer sur l'entreprise. Mais c'est sûr que la production, ça dure grosso modo 4 à 5 mois. Et le reste de l'année, ben moi, je travaille quand même à temps plein sur l'entreprise pour me spécialiser plus au niveau des, je pense, des connaissances. C'est-à-dire que quand on embarque quelque chose dans le catalogue, il faut que je m'assure d'être capable de le produire, de savoir comment le démarrer, c'est quoi sa croissance, c'est quoi ses besoins et tout. Et aussi, on consolide qu'est-ce qui est, par exemple, les nouvelles variétés, notre catalogue. On essaie de le rendre le plus alléchant possible. Sinon, il faut que je coordonne mes points de chute, il faut que je commande mes semences, il faut que je sois à la recherche d'employés. Fait que, tu sais, ça, le reste de l'année, c'est plus un travail de bureau.
C'est du bureau, c'est ça. Tu ne vends pas des légumes, tu vends des plants.
Oui, c'est ça. C'est la grande particularité, en fait, de la transition qu'on a faite. C'est qu'avant, je vendais vraiment des légumes sous forme de panier, aussi de marché. Et maintenant, c'est vraiment des plants en pot. On commence à avoir une petite sélection de semences, mais c'est surtout des semences qui sont complémentaires à ce que nous, on offre, par exemple, des légumes racinaires comme des betteraves, des carottes. On offre aussi de la laitue en semences qui permet de, si jamais on a un petit trou dans le jardin au cours de l'été, bien, on est capable de replanter de la semence pour augmenter la productivité, des choses comme ça, mais sinon, c'est vraiment des plants en pot.
Alors, je suis intéressé, je veux acheter tes produits. Comment ça marche? Alors là, on est évidemment trop tôt en avril. Ça va prendre encore 4, 5, 6 semaines. Mais
oui,
comment ça fonctionne?
Ça. Il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. La première, c'est qu'on a une boutique en ligne, en fait, qui fonctionne assez bien. Je dirais que c'est notre principal créneau de vente. Les gens peuvent aller directement en ligne, faire leur panier, choisir leur plan. Et après
ils réservent, finalement.
Ils réservent, c'est ça. C'est des précommandes qu'on appelle. Alors, nous, on a un inventaire qui est prévu dans la serre et on est toujours un petit peu conservateur, fait qu'on va, tu sais, limiter notre inventaire en ligne pour s'assurer qu'on répond aux ventes et à la demande.
Ouais, ouais.
C'est ça, exactement. Fait que généralement, on met seulement 50 % de notre inventaire en ligne. Mais là, au fur et à mesure que les semaines passent, on augmente notre inventaire en fonction du taux de germination, du taux de succès, s'assurer qu'on n'a pas de maladie, etc., etc. Et les gens peuvent précommander leurs plants. À partir de là, à la caisse, ils vont choisir une option pour les récupérer. Donc, ils vont les récupérer soit avec un point de chute, qui on en a partout, on en a même dans la ville de Québec, parce que moi, je suis originaire, fait qu'on fait souvent le voyage, moi, mes parents, vers Québec. On a le marché de fleurs à Joliette. On a aussi des points de chute différents à Montréal. Et on offre aussi la livraison à domicile, qui est un petit peu plus dispendieuse parce qu'évidemment, nous, on fait le trajet. Mais il y a possibilité quand même d'avoir les plants livrés directement chez soi autour de Montréal. C'est sûr que c'est en région éloignée, mais là, on les envoie par transporteur à ce moment-là.
Ouais. Merci beaucoup, Émilie.
Bien, ça me fait plaisir, Marc. Merci de t'être déplacé jusqu'ici.
C'est plaisir. Et à vous qui nous écoutez, donc, la brouette maraîchère, tapez ça sur Internet. C'est sûr que vous allez trouver le site Internet, les réseaux sociaux également qui sont très actifs. Puis sur ton site Internet, ce que j'ai beaucoup aimé, sur chaque plan, tu es très détaillé, hein, tu expliques vraiment, on voit le travail que tu fais en hiver, justement,
oui,
de recherche, etc.
Exact.
Où il y a vraiment beaucoup de détails, comment je le plante, à combien de centimètres du voisin, autant de soleil ou pas de soleil, de l'ombre, de l'eau, c'est vraiment très détaillé. Donc, allez voir là-dessus, puis dépêchez-vous, parce que ça dure 2 mois, puis c'est maintenant, en avril, qu'il faut que vous passiez votre commande pour pouvoir récupérer ça, donc au mois de mai et au mois de juin. On se retrouve dans 2 semaines, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Puis d'ici là, n'oubliez pas, mangez local, bye bye tout le monde!